Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneau.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h ici en direct de Roland-Garros où le soleil commence à revenir dans l'allée centrale où il y a plein de monde qui passe, des acteurs, des comédiens, des sportifs, des chefs d'entreprise. Voilà, on pourrait faire un... On pourrait demander aux rédacteurs en chef de Papier Glacé, qui d'ailleurs doivent être ici aussi pour faire des photos, pour leur prochaine couverture. Deux stars sont là également, Frédéric Dabi de l'IFOP, bonsoir.
Bonsoir, non,
bonsoir à William Tay.
Bonsoir.
Du think tank Le Millénaire. Bon, d'abord ce match quand même, Frédéric. Hein,
match. Bah, c'est moins le match. Le match a été absolument à sens unique. Ça a rappelé la finale de 2008 où... Nadal avait laissé que 4 jeux à Roger Federer. Ce qui est important, Pierre, c'est plutôt l'histoire. Un exploit hors du commun. Je vois pas d'autres disciplines sportives où gagner 14 titres comme ça serait équivalent. 14 Roland-Garros, c'est ce qu'avait gagné Pete Sampras avec tous ses grands chelems. Et puis surtout, Nadal, dans ce match contre l'histoire, prend date face à Federer et Djokovic, puisqu'il a maintenant 2 titres du grand chelem de plus. Moi, j'ai eu une peur, très sincèrement. J'avais peur qu'il fasse une Sampras, c'est-à-dire qu'il annonce que c'était son dernier match, qu'il n'en pouvait plus, que son pied lui faisait trop mal. Ben, il a dit « je me préparerai pour l'année prochaine ». Donc, c'est une bonne nouvelle. Quoi. Jamais. Mais en tout cas, c'est, voilà, là, il écrit les pages de l'histoire du tennis.
En plus, c'était, j'allais dire, sa victoire est la plus inattendue, puisqu'on le disait d'abord incertain. En plus, il est arrivé, voilà. Il y a eu l'accident de Zverev. Bon,
il a perdu beaucoup de matchs avant
c'était
Roland-Garros.
C'était attendu quand même il y a 2 jours hein, contre Alexander Zverev. C'est... Honnêtement, on était au touche-touche. Hein. C'était 15-0, 15-A, 30-15, 30-A, etc., etc.
Ça a duré 3 heures. Ils n'ont même pas fait 2-7. Ça a été ce coup du destin de cette terrible blessure pour l'Allemand.
William Tay, vous êtes très tennis ou...
Moi, je ne suis pas trop. Je ne suis pas trop le tennis. Mais ce qui est impressionnant avec Nadal, c'est que même en suivant pas, on sait que ce qu'il a fait est exceptionnel. Et en fait, il est en train
on sait qu'il va gagner.
Voilà, on sait à peu près qui va gagner. C'est à peu près ça, incroyable. Il est en train de banaliser l'exceptionnel. Chapeau à lui. Je ne sais pas si dans le sport, quelqu'un a autant dominé depuis Michael Jordan en NBA.
Ouais, je ne sais pas si banaliser l'exceptionnel, c'est forcément très positif, ce que vous dites.
Non, ce n'est pas forcément, mais... C'est-à-dire
que vous ne pouvez pas vous empêcher de mettre un tacle. Hein. Vous êtes terrible comme garçon, William.
C'est-à-dire à quel point il est fort. Parce que je n'ai pas le souvenir, hormis peut-être Tiger Woods et Michael Jordan, une telle domination.
Et ça a duré sur 5 ans, 7 ans.
Voilà.
Lui, sa première victoire,
14 ans.
C'était en 2005.
Oui,
c'était à 17 ans.
Ça a 17 ans même.
Si on doit retenir Tiger Woods, il y a eu quelques incidents d'obstacles, on va dire.
Oui.
Voilà, bon,
alors, Nadal est absolument immaculé du point de vue du comportement et tout le monde l'admire, y compris les fans de Federer ou les fans de Djokovic.
Revenons-en un petit peu à la campagne qui est là. Mais c'est ce qu'on disait dans les débats il y a encore 2 jours, 3 jours, 1 semaine, c'est que je parle sous votre contrôle, mais je crois à peu près 1 Français sur 2 qui s'intéresse à cette campagne.
Moins que ça. On est à 41% dans le baromètre match.
41%.
Et le 1 sur 2, Pierre, c'est la part des Français qui envisagent de ne pas voter. Ce serait absolument terrible. Ce serait la deuxième fois après les législatives de 2017 que l'abstention serait majoritaire. On parle d'un scrutin national. Ça en dit long sur cette étrange campagne où il ne se passe rien. Une campagne chloroformée, sans message national pour électriser la mobilisation. Il reste encore 5 jours, mais c'est une campagne encore moins intense que n'était celle de 2017. Mais de ce point de vue-là, on peut avoir des surprises compte tenu de cette non-campagne.
On a présenté Emmanuel Macron comme le dynamiteur de la droite, de la gauche, puis ensuite de la droite. Est-ce que c'est ça la principale raison de ce désintérêt ?
Cette campagne fait suite à une présidentielle où il ne s'est pas passé grand-chose non plus. Et c'est vrai que depuis qu'il y a eu cette invasion du calendrier électoral, que les législatives ont perdu leur autonomie, elles sont très indexées sur l'élection présidentielle. La campagne avait commencé tôt lorsque Jean-Luc Mélenchon a eu cette idée de génie qui ne voulait rien dire institutionnellement, élisez-moi Premier ministre, mais depuis... En temporisant sur la formation du gouvernement, Emmanuel Macron, volontairement ou pas, a un peu chloroformé cette campagne. Il reste, je répète, quelques jours, mais le risque sur lequel l'abstention serait majoritaire est absolument très fort aujourd'hui.
Bon, en tout cas, il a été un bon publicitaire. C'était un bon slogan, élisez-moi Premier ministre. Ça a marqué les esprits. Et en tout cas, ça a occupé le territoire médiatique pendant quelques temps. William Tay. d'accord avec ça ?
Oui, je suis plutôt d'accord. Enfin, il y a plusieurs points sur le désintérêt des Français. En fait, les intérêts des Français, ils ne viennent pas uniquement sur l'élection législative, c'est que l'élection présidentielle n'a finalement que très peu intéressé. Je me rappelle d'un sondage notamment qui posait la question, les 77% des Français trouvaient que les bons thèmes n'étaient pas abordés, qu'il n'y avait pas de vision du pays qui était déclinée. Et en tout cas, sur tous ces points, je ne suis pas sûr que l'élection législative ait répondu à ces différentes questions. Et en fait, la dynamique Mélenchon est un peu inversée par rapport à l'élection présidentielle. Sur que l'élection présidentielle, il est monté petit à petit progressivement. Et puis dans les derniers mètres, il a fait un très grand bond dans les derniers jours, notamment en termes d'intention de vote. Là, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il démarre très fort et il commence petit à petit à s'étioler dans les sondages, en tout cas à perdre un peu sa dynamique. Je pense qu'il y a un troisième point qui est important aussi sur les élections législatives, c'est qu'en fait, il n'y a que deux courants de pensée qui s'expriment. Il n'y a que aujourd'hui la majorité présidentielle qui a une chance raisonnable de gagner. Il n'y a que Jean-Luc Mélenchon du côté gauche qui arrive à exprimer une utilité au vote. Par contre, la droite est complètement absente, ce qui justifie en plus qu'une partie des Français ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans l'offre politique actuelle, dans la mesure où Marine Le Pen avait annoncé très tôt en fait qu'elle n'avait aucune chance de gagner, que Zemmour n'avait très peu de chances de gagner et que LR n'a pas mené campagne. Donc vous avez 35-40% des Français qui aujourd'hui n'ont aucune chance de gagner.
Alors vous avez dans la série Punchline Marine Le Pen qui aujourd'hui à Hénin-Beaumont appelle à vaincre, je cite, la malédiction d'un système vermoulu. Elle taxe Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron des deux mamelles de la déconstruction de la nation.
Elle est dans son rôle. Vous savez, au sort, cette élection...
C'est violent quand même.
Oui,
hein,
c'est violent, mais là, tout d'un coup. Cette phrase est très fortement liée au contexte politique que William Tay a rappelé, que nous avons une France tripolarisée politiquement. Au soir du premier tour, on a eu un très gros bloc Macron, un bloc Marine Le Pen et un bloc Jean-Luc Mélenchon. Là, aujourd'hui, compte tenu de l'abstention qui va être extrêmement forte, il n'y aura quasiment aucune triangulaire, il y en avait une en 2017, donc il y aura trois forces pour à chaque fois des duels, donc pour deux places. Dans ce cadre-là, Marine Le Pen est dans son rôle de délégitimer le camp Macron, le camp de la gauche unique, qui est peut-être le seul récit que les Français ont vu, contrairement au récit de droite où les candidats de droite sont là, ils font campagne, mais localement, on ne les entend pas, il n'y a pas de parole, je dirais, qui mettrait ça en musique nationalement. C'est vrai que Marine Le Pen, alors là où j'ai un point de divergence avec vous, elle fait quand même campagne et compte tenu du fait qu'il y a un phénomène qui ne s'était pas produit aux législatives précédentes, c'est-à-dire que les intentions de vote en faveur du RN ne s'effondrent pas après la présidentielle, elle a une chance sérieuse d'obtenir ce qu'elle n'a pas obtenu, ce que le FN a obtenu qu'une fois en 86, parce que c'était la proportionnelle, un groupe parlementaire, c'est une possibilité ténue, mais une possibilité. Mais c'est vrai que quand elle parle de système vermoulu, elle pointe aussi ce système électoral majoritaire à deux tours qui va de moins en moins aux Français.
Oui, William Tay et Frédéric Dabi qui essayent de parler sous couvert des hurlements des supporters de Raphaël Nadal.
Il faut les comprendre.
Non, mais ils ont tous la banane et puis surtout ils ont des décorations jaunes et rouges, évidemment, tout ça. Ce sont des Espagnols, on les reconnaît. William, t'es d'accord avec cette analyse de
Frédéric? Oui, plutôt d'accord. En fait, Marine Le Pen, ce qu'elle doit chercher à faire, c'est vaincre en fait le plafond de verre du Front Républicain et du fameux plafond de verre que est victime le Rassemblement National à chaque fois. C'est-à-dire que ce qui va se passer aux élections législatives, c'est qu'on a 577 mini-élections présidentielles. Et ce qui arrive à chaque fois au Front National, Rassemblement National d'aujourd'hui, c'est qu'au second tour, quand ils font face à un candidat d'un parti de gouvernement, ils subissent un barrage républicain et ce qui les empêche de gagner. Quand on prend des circonscriptions de 2017, des endroits où même Marine Le Pen a fait 60% dans des circonscriptions, le candidat du Rassemblement National perdait au second tour à l'occasion des élections législatives. Là, ce qu'elle doit faire, son intérêt est double avec cette déclaration. Ça permet d'attaquer et de mettre au même niveau Mélenchon et Macron, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est récupérer les électeurs de droite des Républicains et des Reconquêtes pour leur dire, si vous voulez vous exprimer, le seul vote utile pour vous exprimer à l'occasion de ces élections législatives, c'est le vote du Rassemblement National, afin de lui permettre de constituer un groupe parlementaire et de s'opposer comme la principale opposante à Emmanuel Macron pendant le quinquennat.
Bon, en attendant, le chef de l'État a fait une sortie hier dans la presse régionale. Sortie, interview, pas fleuve, mais en tout cas catalogue. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses sur énormément de sujets, à la fois sur la construction, ce grand conseil de la refondation qu'il fait un parallèle avec le conseil de la résistance. Il y a des données économiques, il y a la promesse écologique qui figurait en long et en large dans son programme et qui s'est traduit d'ailleurs par ce binôme de deux ministres sur l'écologie. Et puis il y a tout, il y a l'affaire Abad, il y a même question de Mbappé. C'est-à-dire, est-ce que ma question, Frédéric Dabi, est-ce que c'est une bonne, d'abord, entrée en matière à 8 jours du premier tour des législatives, premièrement. Et deuxièmement, est-ce que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, et notamment cette chance de Marine Le Pen de pouvoir vaincre sur le territoire, alors qu'on sait bien que ce n'est pas du tout le même contexte que l'élection présidentielle nationale, est-ce que c'est la bonne réponse à cela ?
En tout cas, le président devait prendre la parole. Une élection législative, quand l'abstention est forte, et c'est le cas maintenant, elle progresse à chaque élection, c'est une affaire de mobilisation des électorats. Et c'est vrai que le silence du président de la République, qui incarne à lui tout seul la majorité présidentielle, devenait gênant, démobiliser son camp. Alors, je ne vais pas rentrer dans le fond, c'est vrai que c'est un véritable catalogue, il a du mal, notre président, à faire court, et c'est vrai qu'au moins, à minima, il a fait passer des messages qui est « voilà mon programme, donnez-moi les moyens d'appliquer ce programme », c'est ce que disait chaque président élu après une présidentielle qui demandait une majorité parlementaire, de François Mitterrand en 80 à Jacques Chirac en 2002. Et c'est vrai qu'il a attaqué la NUPES et à un degré moindre le Rassemblement national. Donc il est entré dans l'arène politique, mais à bas bruit, et comme vous le dites Pierre, en abordant tellement de thèmes que le fil rouge du message, le fond du message est sans doute peu passé auprès des Français, mais l'essentiel pour lui, c'est mobiliser son camp. S'il mobilise son socle de 28,5-29% du premier tour dans les 577 circonscriptions, ça sera largement gagné pour Ensemble Renaissance, parce que pour l'instant, on a annoncé l'IFOP pour la première fois, un risque de majorité relative, comme l'avait connu la gauche, pourtant vainqueur en 88 avec Michel Rocard.
William T.
Il y a plusieurs points sur l'interview d'Emmanuel Macron. Le premier, c'est qu'il s'adresse principalement à son camp. Ça veut dire qu'en fait, il ne s'adresse ni à la droite ni à la gauche. Il s'adresse principalement aux électeurs LREM qui sont éventuellement démobilisés du fait qu'Emmanuel Macron a mis du temps à composer un gouvernement et qu'aujourd'hui, il n'agit pas concrètement. Moi, je trouve qu'il y a une ambivalence sur l'élection d'Emmanuel Macron. Il avait été élu, notamment, il a bénéficié d'un vote utile au premier tour sur la question de l'urgence et du fait qui disait « nous sommes en situation de crise sanitaire, en situation de crise diplomatique, situation de crise économique, donc il faut élire le président le plus compétent pour agir rapidement ». Mais dans le même temps, en parallèle, et son message est contradictoire, dans la mesure où il met 4 semaines à composer un gouvernement et de ne pas prendre aucune action importante. Le deuxième point que je vois, c'est qu'il met au même niveau Mélenchon et Le Pen. Alors qu'habituellement, on considère que Le Pen est à risque...
Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen incarnent le désordre et la soumission.
Et voilà, entre les deux tours, il n'a pas fait ça.
Ouais, mais là, il met les deux au même niveau. D'habitude, on considère que l'extrême droite est un danger plus important que l'extrême gauche. Mais cette fois-ci, il classe au même niveau Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Il y a un troisième point que je vois intéressant sur son programme, c'est notamment sur le Conseil national de la refondation. Ça démontre quelque chose sur Emmanuel Macron. C'est-à-dire que est-ce que Emmanuel Macron est encore le même homme qu'en 2017, celui qui veut disrupter et dynamiter la vie politique, quitte à y aller tout seul comme sur le modèle d'un hyper-président et sur le modèle plutôt bonapartiste en disant « je vais agir ». Là, il change de méthode à la fois sur le fond et sur la forme. Et moi, c'est là où je vois un point qui est problématique, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a principalement été élu pour agir. Est-ce qu'il peut agir concrètement avec un Conseil national de la refondation ? C'est intéressant en termes de réflexion, mais en fait, ça va mettre un an de débat de discussion, un an de débat au texte de loi et un an de débat en termes de décret d'application.
C'est-à-dire qu'avec ce conseil, vous avez les parlementaires déjà qui commencent à crier très très fort en disant « et nous, on existe quand même, on est en démocratie représentative accessoirement ». Et puis il y a un CESE aussi, si on veut vraiment faire les choses.
Il y a un CESE même très actif, mais ce que vient de dire William Tay est très intéressant parce qu'il touche la force et la limite du macronisme pendant le premier quinquennat. Sa force, c'est l'action. Contrairement à François Hollande, voire contrairement à Nicolas Sarkozy, la critique en termes d'inaction a été très peu souvent associée à Emmanuel Macron, petit peu sur la question environnementale après la démission de Nicolas Hulot. Mais en même temps, il y a eu des critiques très fortes sur la méthode employée, sur ce qui a conduit au gilet jaune, un président brutal qui impose des choses d'en haut. On se souvient de ce qui s'est passé avant cette crise des gilets jaunes. Là, il essaye un petit peu de ménager la chèvre et le chou, se dire j'ai toujours ce crédit d'action, de mouvement, de volontarisme par rapport à mes différents adversaires, mais je ne peux plus réformer un pays de la même manière qui a connu crise des gilets jaunes, crise sanitaire, qui connaît une crise internationale, qui est avec cette inflation, ce pouvoir d'achat, qui est une véritable obsession française. Je ne peux plus faire de la même manière, mais c'est vrai, le risque avec une association si forte de corps intermédiaires, c'est que le projet se délite et ce qui avait été mené extrêmement rapidement en 2017, en 2018, voire dans les derniers mois du quinquennat, soit moins vu et fasse l'objet de critiques. En tout cas, les parlementaires, le risque, c'est qu'ils nourrissent et ils créent des frondeurs. Et il y a toujours plus de frondeurs pour un président réélu dans un deuxième mandat que dans un premier, même si on en a vu sous François Hollande.
Admettons ce conseil de la refondation, ça serait comment ? Ça serait quand ? On n'a pas évidemment les contours, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer ? C'est un ersatz de ce qui a été fait avec le CESE, avec cette grande consultation citoyenne ou après, souvenez-vous quand même, le président donne espoir à énormément de gens en disant sur des questions écologiques, et puis à la fin, il ne retient que très peu de ce qui a été...
Vraisemblablement, ce sera une commission Attali transposée sur les territoires. Moi, je le vois comme ça, c'est-à-dire qu'il va réunir des gens qui vont discuter ensemble, et en fait, se pose une double question. C'est-à-dire que si on a un Conseil national de la refondation, à quoi ça sert de voter pour des députés LREM à l'occasion des élections législatives ? Parce qu'il y a une sorte d'ambiguïté. Quoi qu'il arrive, il y aura un Conseil national de la refondation qui va décider sur les principaux sujets, le plein emploi, l'indépendance énergétique, etc. Donc à quoi sert le Parlement ? C'est la première question. Et la deuxième question, moi, que je pense qui est plus intéressante, c'est en fait à quoi sert l'élection d'Emmanuel Macron, dans la mesure où Emmanuel Macron avait désigné un cap. Emmanuel Macron avait désigné un cap et donc a été élu sur un projet. Si le Conseil national de la refondation porte des conclusions qui sont contradictoires au projet d'Emmanuel Macron, est-ce que celui-ci va se dédire ou est-ce qu'il va confirmer son intention comme à l'occasion de la Convention citoyenne ? Est-ce qu'il doit effectuer une synthèse ? Quel est le rôle des institutions et du Parlement ?
J'entends ce que vous dites, mais c'est là qu'il doit, contrairement à la Convention citoyenne, il doit clarifier. Ce Conseil national de la refondation, ça sera un instrument de concertation, d'écoute, mais au final, c'est le politique qui tranche, ce sont les députés qui votent les lois, les projets et qui les amendent, parce que sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande, et un petit peu sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, mais beaucoup moins, les députés ont le pouvoir d'amender des textes. Mais il doit sortir de l'ambiguïté qui avait présidé à la Convention citoyenne, où au début il dit « je prends tout », puis après c'est « je prends tout » ou un « trois jokers », et finalement des choses ont été prises, et finalement pas autant que ça. Je pense que l'important, c'est réaffirmer ce que les Français aiment plus que tout au monde, c'est le primat du politique. C'est le politique qui impose et qui mène le pays. Quand bien même il y a des assemblées ou des conseils ou des instances de concertation et d'aide.
Mais quand bien même, et je pense que vous n'avez pas assez insisté tous les deux sur ce point, pardonnez-moi, mais on est en démocratie représentative, on n'est pas dans le canton d'Appenzell où on vote la main levée, on ne va pas réunir des gens là devant dans l'allée centrale de Roland-Garros. Est-ce que vous êtes pour ou contre, je ne sais pas moi, cette histoire d'abaisser, de ne plus retirer de points de permis de conduire si on dépasse de 5 km/h ? Mais ce que je veux dire, c'est que...
J'entends très bien. Le problème...
Imaginez, député, vous allez peut-être l'être un jour, mon cher Frédéric.
Ah non, absolument.
Mais imaginez, après vous alors. Député de votre circonscription, et puis vous entendez ça, enfin, vous tombez de votre chaise quand même, non ?
Oui et non. Nous sommes dans un régime hybride. Dans un régime...
Donc on n'est plus dans un régime représentatif.
Non, si, nous sommes dans un régime parlementaire, oui. Mais qui est complètement cannibalisé par ce qu'on peut appeler une forme de poison présidentielle, où le président, avec l'hyperprésidence, le quinquennat, la marginalisation, pardon de le dire, du poste du Premier ministre, semble décider de tout et tout régir.
Mais ça, il n'y est pour rien.
Ah non, mais...
C'est la Constitution de 58 qui fait ça. Hein.
Et puis, ça s'est accéléré avec l'inversion du calendrier électoral, le passage du septennat au quinquennat. Je crois qu'Emmanuel Macron n'est pas un obsédé, si je puis dire, du quinquennat. Et tout ça, cette accélération, fait que la scène parlementaire, qui était déjà peu visible par les Français, a été marginalisée. Essayez peut-être de la revivifier avec des corps intermédiaires autour ne me paraît pas une mauvaise idée. N'oublions pas que ce qui a été un poison pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, dans les années 2017-2019, avant la crise sanitaire, ça a été le sentiment que les corps intermédiaires élus, associations d'élus, CESE et autres, avaient complètement disparu.
Oui, enfin bon, c'est assez amusant parce qu'on ne l'a pas trop dit là, cette élection présidentielle, mais quand même, on l'a beaucoup dit durant les 20-25 dernières années, il faut supprimer le Sénat. Alors là, on ne l'a pas dit, mais il y en a qui disent encore qu'il faut supprimer le Sénat. Par contre, on va faire une nouvelle assemblée conseil de la refondation.
Oui, mais dans le même temps, on dit qu'il faut supprimer le Sénat, mais les Français étaient plutôt contents du travail du Sénat en termes de commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Benalla notamment et sur d'autres, et sur l'affaire
Macron. Qu'est-ce qu'on dit des sénateurs qui sont les représentants du... Je retrouve plus.
Des territoires, des collectivités
taille. Oui, non, non, mais il y a une expression, c'est pas grave, je vais retrouver entre temps.
Mais la question de la convention nationale de la refondation, en fait, est double. La première, c'est en fait, qu'est-ce qu'on garde en termes de démocratie ? Et je pense qu'Emmanuel Macron considère que les corps intermédiaires ne sont pas légitimes et ne sont pas représentatifs, à la fois ceux du Parlement, ceux des syndicats et ceux des différentes associations d'élus. Le deuxième point, c'est qu'en fait, on n'a jamais réussi à traduire sur pourquoi est-ce qu'on avait un tel désintérêt au niveau politique et pourquoi est-ce que l'abstention augmentait. C'est toute une question d'analyse. Est-ce que l'abstention augmente parce que l'offre politique n'est pas la bonne ou parce que les électeurs se désintéressent du sujet et qu'il faut du coup s'adapter aux électeurs, ou est-ce qu'il faut renforcer le pouvoir politique pour que le pouvoir politique puisse donner une vision et obtenir des résultats ? C'est deux écoles qui sont complètement différentes. Et Emmanuel Macron considère que du coup, c'est plutôt les institutions qui sont mauvaises plutôt que son action politique. En même temps, c'est normal, il est président sortant, il ne veut pas dire que son action est mauvaise.
Il a été réélu.
Il a été réélu en plus. Donc du coup, il s'attaque plutôt à la question du corps intermédiaire. Et puis moi, j'ajouterai un dernier point en termes de vision. Est-ce qu'avec un Conseil national de la refondation, vous êtes en capacité de décliner une vision pendant les 30-40 prochaines années à venir, ce qui est demandé aujourd'hui à un président de la République ?
Il y a le plan, il y a quand même... Mais... Oui. C'est vrai que quand on regarde le plan, quand on regarde le
CESE, le commissariat au plan,
on peut se dire qu'il y a peut-être des doublons pour ne pas dire des triplons. Pour autant, j'ai envie d'être prudent. Attendons de voir les contours de ce Conseil national de la refondation. C'est vrai que le clin d'œil au CNR des années 43-44 est absolument patent. Mais n'oublions pas que quand on interroge les Français, ils ont le sentiment que le pays est en déclin. Jamais on n'a eu un tel désarroi et une telle difficulté des Français à se projeter dans l'avenir, y compris après une élection présidentielle où pour la première fois depuis que l'IFOP pose cette question, l'optimisme a baissé après une élection présidentielle où traditionnellement le pays a débattu, a confronté l'offre des différents candidats et repart de l'avant. Ça montre à quel point, et ça annonce en filigrane cette étrange campagne des élections législatives, cette présidentielle n'a rien tranché.
Voilà, et j'ai retrouvé ma phrase, et c'est et je comprends pourquoi est-ce que ça m'était resté dans l'oreille, c'est le doyen Vedel qui présidait l'université Panthéon-Assas, qui disait ça à propos du Sénat, c'est l'assemblée du seigle et de la châtaigne. Ah. Ça vous prouvait à quel point les sénateurs étaient ancrés dans leur territoire, peut-être un peu contrairement, c'est ce qu'on apprenait en droit constitutionnel, peut-être contrairement aux députés qui avaient aussi une carrière politique derrière eux, les sénateurs étaient ancrés dans la suppression
du cumul des mandats a fait beaucoup sur la déconnexion d'une partie des députés avec le territoire, on l'a bien vu depuis 2017.
Merci beaucoup à vous deux, merci Frédéric Dabi, directeur général de l'opinion à l'IFOP et féru de tennis, très bon joueur de tennis, enfin, je ne sais pas d'ailleurs, on verra,
sur
un cours, et William Tay, président du think tank Le Millénaire. Dans un instant, le journal de 19h. Et juste après, on s'intéresse aux océans, puisque dans 3 jours, c'est la journée mondiale des océans. A tout de suite sur Europe.